Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'était déjà la série européenne à suspense depuis 3 ans et il semble que les scénaristes aient encore de la ressource puisqu'il est fortement question de la prolonger de plusieurs mois. Nouveau sommet extraordinaire à Bruxelles pour discuter du Brexit. Aujourd'hui, la chef du gouvernement britannique Theresa May demande un report jusqu'au 30 juin. Le temps, dit-elle, de trouver un accord politique à Londres pour une sortie ordonnée de son pays de l'Union européenne. Sauf que cet accord semble introuvable en l'État, d'où l'idée européenne d'un report plus long pour faire baisser la tension et peut-être, pourquoi pas, se raisonner. Assiste-t-on à un enterrement de première classe pour le Brexit? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Adrien Rode, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en civilisation britannique à l'université de Versailles-Saint-Quentin et à l'Institut d'études politiques de Saint-Germain-en-Laye. Et John Henley, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, correspondant pour les affaires européennes pour le quotidien britannique, Le Guardian. Le vote britannique en faveur du Brexit, c'était il y a pratiquement 3 ans, en juin 2016. 34 mois, dont 17 de négociations et 5 de débats parlementaires infructueux plus tard. On est donc bien parti pour un temps de réflexion supplémentaire et les Britanniques se préparent au cas où à participer aux élections européennes. Le Brexit est-il dans l'impasse, John Henley?
Bah, écoutez, je pense que la réponse courte est oui. En gros, le problème, c'est que ce qu'on vit en ce moment, c'est un peu les conséquences inévitables de toute une série de décisions qui ont été prises depuis le début du processus. La toute première décision, en fait, c'était la décision de David Cameron d'organiser un référendum sur ce sujet. Et surtout, la campagne qui a été menée pour le Brexit. En gros, le Brexit qui a été promis aux électeurs britanniques n'existe pas. Je clarifie, en fait, ce que je veux dire par ça, c'est que les Brexiteurs, ceux qui ont mené campagne pour le Brexit, ont promis qu'il serait possible de quitter l'Union européenne tout en gardant tous les avantages d'être membre. Et là, les parlementaires britanniques et le gouvernement britannique est en train, très lentement, mais très sûrement, de découvrir que ce n'est pas le cas et que ce n'est pas possible.
Adrien Rode, est-ce que vous diriez qu'il y a eu, alors je ne sais pas s'il y a eu du mensonge, on le sait quand même plus ou moins, hein, oui, dans cette campagne, mais est-ce qu'il y a eu au moins eu une forte impréparation de la part des Brexiteurs?
Ah, ça c'est assez clair, il y a une forte impréparation des deux côtés. Le gouvernement ne comptait pas du tout perdre ce référendum, hein. L'intention de David Cameron était d'enterrer pendant une bonne génération cette question européenne pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Et les personnalités politiques qui ont porté le référendum, qui ont porté la campagne pour sortir de l'Union européenne, ne comptaient pas non plus la gagner. Que ce soit Boris Johnson, que ce soit Michael Gove, ils ont pu promettre, comme le disait John Henley, tout et n'importe quoi, un Brexit totalement imaginaire, parce qu'ils ne pensaient jamais avoir à le mettre en œuvre.
Qui, en Grande-Bretagne, a à gagner ou à perdre à une prolongation du délai, John Henley?
Écoutez, je pense que ceux qu'on appelle les leavers, donc ceux qui ont voté pour sortir, ont sans doute le plus à perdre.
Notamment les hard Brexiteurs.
Voilà, leur crainte, c'est que le Brexit s'enlise dans une sorte c'est pas mon expression, mais je l'aime beaucoup. C'est un ancien ministre des Affaires européennes britannique, Dennis McShane, qui a trouvé cette expression. Il parle d'une Brexiternité. Et je pense que c'est très très bien trouvé. On pourrait très bien entrer dans ce processus, parce qu'en fait, ce qui s'est passé jusqu'ici, c'est que si vous voulez, la réalité économique traîne un peu derrière la réalité politique. C'est-à-dire que les Britanniques, pour l'instant, ne ressentent pas les effets probables économiques d'un Brexit dans leur poche. Ça va commencer à se faire sentir, et plus on avance dans le processus, moins il y aura de soutien à mon avis, pour un vrai Brexit.
Mais comme le disait Michel Audiard, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Adrien Rode, qu'en pensent les Remainers de tout ça, de ceux qui veulent rester dans l'Union européenne, qui ont voté contre le Brexit?
Ils espèrent pour bon nombre d'entre eux que l'éternisation effectivement de ce processus va démontrer que le Brexit est quelque chose d'impossible. Et que, in fine, la seule solution serait de remettre la question à la population par référendum, voire, et c'est ce que certains ont soulevé parmi les nationalistes écossais, par exemple, si on arrive à une date butoir sans aucune solution, que le Parlement lui-même révoque l'invocation de l'article 50 pour pouvoir rester dans l'UE.
Alors, ce qui nous amène à une question clé, les Britanniques, et notamment les membres du Parlement, peuvent-ils trouver une solution raisonnable dans le délai qui est demandé par Theresa May, c'est-à-dire une solution qui éviterait un Brexit désordonné? Pour ce qu'on a vu pour l'instant, John Hanley, ça n'a pas l'air d'être le cas.
C'est clair qu'ils ont, non seulement ils ont rejeté à trois reprises l'accord négocié par Theresa May, mais au cours de deux journée et très longue soirée de vote, ce qu'on appelle des votes indicatifs, c'est-à-dire des votes pour essayer de trouver une solution alternative à ce deal de Theresa May. Les députés britanniques n'ont pas réussi à trouver une solution qui aurait une majorité stable ou même une majorité tout court au sein de la Chambre des communes. Et donc, Theresa May, ce qu'elle a fait jusqu'ici, c'était d'essayer de faire passer son deal avec les votes de son propre parti. Mmh. Elle n'a pas réussi parce qu'il y a bon nombre de son parti qui rejettent le deal. Il y en a en partie parce qu'ils trouvent que ça va pas assez loin, en partie aussi parce qu'il y en a pas mal qui trouvent que ça va trop loin. Donc, elle a maintenant décidé, bon, je vais aller chercher les votes dont j'ai besoin de l'autre côté de la Chambre des communes, donc chez l'opposition. Elle essaie de négocier avec le Labour, avec le Parti travailliste, donc pour trouver une majorité autour d'une solution possible, notamment, je pense, avec cette idée de rester dans l'union douanière avec l'Union européenne. Le seul problème, c'est que pour le Parti travailliste est tout aussi divisé que le Parti conservateur et il sera très très difficile. En gros, il n'y a pas vraiment d'avantage politique pour le Parti, ou avantage électoral pour le Parti travailliste à trouver un accord avec le gouvernement. Donc ça va être très compliqué.
Oui, Adrien Rode, Jeremy Corbyn n'a pas du tout intérêt à servir le Brexit sur un plateau à Theresa May, en fait. Son intérêt, c'est qu'elle tombe, qu'elle chute.
Exactement. Et c'est ce qu'il a cherché à faire, d'ailleurs, lorsqu'il a introduit une motion de défiance contre le gouvernement qui a échoué en janvier. Oui, le gouvernement a mis Jeremy Corbyn dans une position qui est extrêmement difficile pour lui. S'il parvient à un accord avec Theresa May, les opposants au Brexit vont l'accuser d'avoir permis à ce que le Brexit se fasse. Et s'il n'y parvient pas, on va l'accuser également d'avoir adopté une posture purement politicienne, de confrontation stérile. Quoi qu'il fasse, il sera critiqué.
À quoi, parce qu'on en est là maintenant, hein, puisque Theresa May demande un report officiellement jusqu'au 30 juin, ça veut dire que la Grande-Bretagne participerait aux élections européennes, alors que ces sièges ont déjà été redistribués entre les autres pays, et notamment la France. À quoi ça pourrait ressembler, la campagne pour les européennes en Grande-Bretagne, John Hanley?
Ça pourrait être franchement très très intéressant, honnêtement. Parce que c'est clair, je pense que c'est une évidence que si des vraies figures de proue du Brexit comme tel Nigel Farage, qui a fondé un nouveau parti, le Parti pour le Brexit, je pense qu'il fera un très bon score, c'est évident, mais il existe aussi maintenant en Grande-Bretagne, pour la première fois depuis des décennies, un véritable mouvement pro-européen. Il y avait plus d'un million de manifestants dans les rues de Londres le mois dernier. Il y a plus de 6 millions de personnes qui ont signé une pétition pour révoquer l'article 50. Donc voilà, je pense que ça pourrait être une campagne et une élection tout à fait intrigante.
D'autant, Adrien Rode, pardon, oui, allez-y.
Non, je pense qu'elle elle pourrait l'être, mais la question qui va être tout de même difficile, c'est sur quoi exactement les candidats vont-ils faire campagne, quelles promesses vont-ils pouvoir faire, sachant qu'il est tout à fait possible qu'ils ne siégeront jamais ou qu'ils ne siégeront que brièvement. Donc attirer l'attention des électeurs risque d'être assez compliqué tout de même.
Et il y a aussi une question qui est importante dans le système politique britannique, c'est que quand on vote pour les communes, c'est first past the post, c'est-à-dire que c'est le premier, celui qui a le plus de voix qui remporte la circonscription. Ça veut dire que ça mène au multipartisme, au bipartisme, mais là c'est un scrutin proportionnel, ça peut changer des choses, John Henry?
Oui, tout à fait, et je pense que c'est pour cela que je suis complètement d'accord avec Adrian Rhodes, ce serait très difficile pour les candidats députés européens, mais pour beaucoup d'électeurs, je pense que ça sera vécu comme un deuxième référendum, une sorte de référendum symbolique sur ce choix qui a été fait en juin 2016.
Un peu comme en France, où, on va le dire très clairement, les élections européennes, ça sert aux partis à se compter, tout simplement, Adrian Rhodes.
Oui, effectivement, à remobiliser leurs troupes. Et en effet, les partis pro-Brexit, les démocrates libéraux, par exemple, qui ne pèsent plus grand-chose à la Chambre des communes, vont peut-être se saisir de l'occasion pour essayer de peser à nouveau. Le groupe des indépendants, hein, ces centristes libéraux qui ont cité les deux grands partis, vont peut-être chercher
à
exister.
Ils sont combien d'ailleurs maintenant, là, ceux qui sont partis des deux grands partis?
Ils sont 11 à la Chambre des communes.
Oui, 11 à la Chambre des communes. On a vu le côté britannique, le côté européen maintenant. Bon, ils souhaitent évidemment pas un Brexit sans accord. Est-ce qu'ils sont aussi unis, qu'il l'affirme depuis des mois, John Henry?
Ils ont montré vraiment une unité tout à fait étonnante, je pense, jusqu'ici. Là, il y a une différence d'opinion, c'est clair. Il y a un groupe de pays mené, on peut dire, par Angela Merkel en Allemagne, qui trouve qu'il faut vraiment donner du temps au temps et vraiment laisser le temps aux Britanniques de décider, d'arriver à une solution et surtout d'éviter un no deal Brexit, un Brexit très très dur. Il y a un autre groupe de pays mené par Emmanuel Macron qui trouve que voilà, ça déjà assez duré. Si la Grande-Bretagne reste, ça va perturber les travaux de l'Union européenne, les réformes européennes que cherche Macron, etc. Et qu'il faut vraiment les jeter dehors aussi vite que possible. Mais moi qui ai vécu j'ai vécu plusieurs crises européennes et pour moi ça pas le sentiment, par exemple la crise de l'euro, la crise grecque, la crise de l'immigration, on ne voit pas les pays européens vraiment s'attaquer de la même manière. Ici, cette question du Brexit et du report du Brexit, c'est plutôt une sorte de puzzle. C'est un problème qu'il faut résoudre. Il n'y a pas du tout la passion ou les prises de position vraiment très très fortes qu'on a vues dans de véritables crises européennes du passé.
Non, c'est un problème technique, effectivement, avec des intérêts communs derrière pour les pays de l'UE.
Oui.
Donc union plutôt que des unions, même si là ces dernières heures semble qu'il y ait quelques nuances. C'est votre avis aussi, Adrian Rhodes?
Je pense oui. Je pense pas que ces désaccords vont mener à une crise subitement là où l'Union européenne est quand même restée.
Je pense surtout qu'ils sont tous très très conscients que il faut préserver. Ce qu'il faut préserver, c'est l'intégrité du marché unique. C'est l'union de l'union, justement. Voilà, ils vont parvenir à trouver un accord.
La France, vous le disiez, John Henry, affiche depuis le début de l'affaire, et notamment ces dernières semaines, une position ferme. Est-ce que c'est une posture politique? C'est jamais mauvais pour un pouvoir français de se montrer ferme avec les Britanniques. Voilà, c'est jamais mauvais. Ou est-ce que c'est un partage des rôles bien compris avec l'Allemagne qui est plus compréhensible? Bon cop, bad cop, c'est
voilà, ça. Voilà, exactement. Ben, c'est comme ça que ça a l'air d'être, justement, ça, une sorte de jeu de rôle. L'Élysée jure que ce n'est pas le cas, et que Macron, il a vraiment une position ferme. C'est parce qu'il le croit. Et c'est clair, je pense qu'il est, oui, c'est évident qu'il est, il y a énormément de frustration du côté de l'Élysée, avec ce processus très, très confus et chaotique. Il veut une décision, il veut une décision vite. Mais Macron aussi, il faut se souvenir, sur le fond, je veux dire, il a mené campagne pendant les présidentielles. Il est pro européen, c'est tout son fonds de commerce, c'est ça, c'est l'Europe, et forcer un pays, un membre, à sortir sans accord serait un geste vraiment profondément anti-européen. Je pense qu'il en est bien conscient, et ce serait surtout aussi jeter un autre pays, surtout l'Irlande, l'Irlande qui risque de souffrir le plus d'un hard Brexit, jeter l'Irlande.
Adrien Rhodes, ce soir, en arrivant à Bruxelles, Emmanuel Macron dit qu'une extension longue n'a absolument rien d'acquis. Enfin, il garde cette position martiale. C'est une posture politique pour vous aussi?
Je pense que ça va lui permettre effectivement ensuite de dire qu'il est celui ou qu'il a été à la tête de ceux qui ont pu imposer des conditions au Royaume-Uni pour pouvoir leur accorder cette extension. Donald Tusk parlait par exemple du fait que oui, d'accord, une extension, mais pas question de l'utiliser pour renégocier l'accord. Auquel l'Irlande reste attachée, auquel l'Union européenne de manière générale reste attachée.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que si on arrive à une extension longue de plusieurs mois, alors je ne sais pas, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au début de 2020, est-ce que ce n'est pas de fait une renégociation qu'on ouvre, même si on ne part pas sur la base de l'accord, mais sur la base d'une union douanière ou
C'est qu'on pourra renégocier.
Qu'est-ce que vous en pensez, Janine?
Je pense que l'Union européenne est très claire, a été très très claire sur ça dès le départ. Il y aura pas question du tout de renégocier l'accord de sortie, l'accord de divorce. Mais cet accord-là, ça règle les problèmes, si vous voulez, du passé. Les problèmes de l'avenir, de la relation d'avenir entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, ces questions-là sont réglées dans ce qu'ils appellent une déclaration politique.
Et c'est là-dessus qu'on veut bien renégocier en Europe.
Qui est rattaché. Ça fait fait un ensemble. Et là, on peut renégocier. Effectivement, ça a été exprès laissé très très vague, vraiment pour tout permettre. Et plus ou moins tout est possible dans cet accord, cette déclaration politique.
Et ça, Theresa May l'a bien compris, elle a accepté et a dit et redit l'accord de sortie, on n'y touche pas. Mais effectivement, la déclaration politique, là, il y a matière à retravailler.
Au fond, cette extension plus ou moins longue, derrière, il y a l'idée pour les Européens qu'on puisse avoir un retour aux urnes en Grande-Bretagne, que ce soit par des élections générales ou par un nouveau référendum, Adrien Rhodes.
Oui, effectivement. Après des élections générales, je ne suis pas certain que cela puisse résoudre quoi que ce soit.
Plutôt l'inverse, c'est possible. C'est les conservateurs qui gagnent et c'est un Brexiteur dur qui devient premier ministre, ça pourrait devenir encore plus compliqué.
Encore plus probable. Les sondages indiquent qu'a priori, il n'y aura pas de majorité au Parlement. Donc, non seulement aucun des deux grands partis n'aura une majorité, mais en plus, les deux grands partis resteront extrêmement divisés. Même si les directions de parti présentent un programme clair par rapport à l'Europe, beaucoup des membres, beaucoup de leurs députés s'en affranchiront de manière...
D'ailleurs, est-ce que c'est possible, ça, John Hanley, que les deux grands partis, et peut-être même les Lib Dems, puissent présenter un programme clair par rapport à l'Europe, dire, voilà, nous, si on est élus, si vous nous envoyez à Westminster et au 10 Downing Street, on va arrêter le Brexit, on va faire le Brexit sans accord. C'est possible,
c'est
ça, ou pas?
Vraiment, c'est très très compliqué. On pourrait dire que ce serait... une bonne prise de position pour le Parti travailliste, mais le problème du Parti travailliste, ils ont un grand problème, c'est-à-dire que la grande majorité de leurs membres et de leurs électeurs sont pour Remain, sont anti-Brexit, mais la grande majorité de leurs députés représentent circonscriptions qui sont plutôt Leave. Donc ils sont absolument partagés.
Merci John Hanley, merci Adrien Rhodes d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Arnold Assewa à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique magazine. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.